Salut, c'est La Poulie.
Bonjour.
Sur Radio Primitive. Alors, qu'est-ce qu'on parle en ce lundi ?
On fera un petit tour de la presse locale.
Ah.
Et en plus, on parlera de répression, comme souvent. Projet de loi pour réprimer les militants écolos.
Ok, moi j'ai un truc sur la répression déjà en cours depuis de nombreuses années sur les milieux écologistes aussi. Un petit truc sur Pascal Praud, que vous verrez, c'est assez hallucinant. Voilà.
Okay, et puis si on a le temps, on parlera peut-être de lutte contre les locations Airbnb.
Ok.
Et tout ça entrecoupé de musique.
Ah oui, un petit agenda.
Allez.
Qu'est-ce cela ?
C'est le calendrier des télécoms.
Alors, sur le calendrier des télécoms, on a quoi ? On a une date le 15 décembre et le 16 décembre. Ces deux dates, ça se passe chez Josette, à Charleville. Et donc le 15, il y aura une délégation de militants de Bure qui lutte contre un projet d'enfouissement de poubelles nucléaires dans la Meuse. Ils viendront présenter leur lutte le 15 décembre. Et le lendemain, il y a Aude Vidal qui vient... elle a écrit plusieurs bouquins sur le, plutôt sur le, comment dire, les contradictions de certains militants écolos, voilà. Du mal à trouver mes mots. Donc ça, c'est le 15 et 16 décembre à Charleville.
D'accord. Moi, j'ai un vite fait là. J'ai trouvé un fly dans la radio. Et mardi 5 décembre à 20h30, il y a un concert au Vieux de la Vieille, au Boulingrin à Reims. Ce sera Brötchen des Todes et César Palace. Voilà. Mardi 5 décembre, 20h30.
Okay. Ouais, peut-être qu'on s'écoutera ça la semaine prochaine.
Ouais, pourquoi pas. Un petit peu de musique, peut-être. Parce que ouais.
Thank you. les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers. Tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous pas et on chantait. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça. Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi. Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Oh,
allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça.
Pense à ce pour qui tu travailles, qu'on voit jamais dans la bataille. Pendant que tu encaisses des cailloux, empêche les dents, ramasse les sous. Avoue franchement, c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur.
Oh, allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça. Allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça.
Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter dans 2 minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, t'es bien dressé, baratiné, mais au moins j'aurais essayé avant les boss de te causer.
Oh, allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça. Allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça. Oh, allez les gars, combien on paye, combien on paye.
Voilà, c'était le GAM dans la poulie, le groupement d'action musicale. Une chanson qui date de la lutte de Chaux, comme quoi l'écoterrorisme et les luttes écologistes étaient déjà bien réprimées en ce temps-là. Et on passe à l'actualité avec un article de l'Union communiste libertaire que vous trouvez sur unioncommunistelibertaire.org. Voilà, donc je vous lis de larges extraits, mais pas tout l'article. 10 mois ferme pour un jet de cailloux. Ainsi, après la manifestation du 29 octobre 2022 à Sainte-Soline, 5 personnes sont condamnées à 2 à 3 mois de prison avec sursis, pour la simple participation à la manifestation interdite, sans qu'aucun fait spécifique, ni violence, ni dégradation, ne leur soit reproché, via le délit de groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. En juin, une personne en comparution immédiate est condamnée à 10 mois d'emprisonnement ferme pour avoir jeté un caillou lors de la deuxième manifestation à Sainte-Soline le 25 mars. En juillet, un autre est condamné à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique après 1 mois de détention provisoire. Il était accusé d'avoir tagué un camion de gendarmerie et d'avoir brièvement saisi un gilet de gendarme volé à Sainte-Soline. En tout, près de 20 personnes ont déjà été condamnées pour ces mobilisations et bien d'autres attendent encore leur jugement. C'est que l'État ne lésine pas sur les moyens pour retrouver les éventuels auteurs d'infractions. Des moyens d'enquête délirants ont ainsi été mis en œuvre pour retrouver des militants ayant débâché une bassine en novembre 2021. Fadette, géolocalisation en direct, filature, plusieurs enquêteurs à temps plein ont été mobilisés pendant plusieurs mois. À l'automne 2022, la police n'a pas non plus hésité à aller arrêter un manifestant dans sa chambre d'hôpital après sa grave blessure due à un tir de LBD dans la tête à Sainte-Soline. Une démultiplication inouïe des moyens. Mais la répression a encore franchi un cap dans l'affaire Lafarge. En décembre 2022, environ 200 militants s'introduisent sur un site du cimentier à Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône et y commettent des dégradations. C'est alors carrément sous la sous-direction antiterroriste, SDAT, qui est saisie. Pendant des mois, les bandes de caméras de surveillance sont épluchées, des personnes sont mises sous écoute, des traceurs GPS sont installés sur leurs véhicules et des filatures sont mises en place. Pour la première fois en France, un logiciel espion est même installé sur le smartphone d'un militant. Ces moyens d'enquête exceptionnels, permis par le régime antiterroriste, sont en réalité utilisés pour faire du renseignement sur les soulèvements de la Terre, soupçonnés d'être à l'origine de l'action. En juin, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, CNCTR, alertait d'ailleurs sur la confusion entre l'entrave d'action violente et la surveillance des activités militantes par les services de renseignement. Ceux-ci demandent de plus en plus de moyens de renseignement, géolocalisation, factures détaillées, écoute, visant des militants et militantes. Puis en juin, toujours dans l'affaire Lafarge, une trentaine de personnes est arrêtée partout en France. Réveillée au petit matin par des canons de fusils d'assaut pointés sur elles, arrêtées violemment, leur domicile perquisitionné, elles sont ensuite conduites les yeux bandés dans les locaux de la DGSI-SDAT. Là, leur ADN est prélevé contre leur gré via un masque sanitaire. Leur garde à vue dure 4 jours. L'un des interpellés, gravement malade, devra voir 3 médecins avant de pouvoir être libéré. Si la qualification terroriste n'est pas retenue, 2 personnes sont par la suite mises en examen pour association de malfaiteurs et dégradation en bande organisée. L'instruction est en cours, ils encourent 20 ans de prison. Une cellule anti-ZAD spécialement créée. Mais même sans les moyens antiterroristes, l'État dispose déjà de tout un arsenal pour réprimer le mouvement écolo. La loi séparatisme et son contrat d'engagement républicain a ainsi déjà été utilisé pour mettre au pas des associations. Ainsi, le préfet de la Vienne a demandé à la ville de Poitiers l'arrêt des subventions d'Alternatiba. L'association avait organisé en septembre 2022 un village des alternatives contenant une formation à la désobéissance civile. Devant le refus de la mairie, la préfecture a saisi le tribunal administratif. Dans les Deux-Sèvres, c'est l'association de protection d'information et d'étude de l'eau et de son environnement, APIEE, qui s'est vu couper ses subventions. Son crime, avoir financé des toilettes sèches pour un rassemblement contre les méga-bassines. Même la Ligue des droits de l'homme, association historique pourtant reconnue, a été menacée par Darmanin de se voir supprimer des subventions après son rapport sur les violences policières à Sainte-Soline. Autre signe de durcissement, au mois de septembre, le ministre de l'Intérieur a mis en place une cellule anti-ZAD composée de 5 juristes. Elle est chargée d'épauler les préfets pour empêcher l'installation de toute zone à défendre sur le territoire. Enfin, ultime arme utilisée par le gouvernement, la dissolution. Si les soulèvements de la terre ont gagné leur référé, le jugement sur le fond n'a pas encore eu lieu à l'heure où nous écrivons ces lignes. Mais une dissolution entraînerait un dangereux précédent et permettrait la mise en place de nouveaux moyens de renseignement pour réprimer le mouvement. Voilà, voilà, donc l'ambiance chez les écolos et la police qui les leur court après.
Et moi, je vais enchaîner sur le même sujet, exactement. Proposition de loi, alors j'ai trouvé ça sur le site Reporter, sorti il y a quelques jours. Je vais pas vous le lire parce que c'est sous forme d'interview, mais je vous encourage à aller le faire. C'est assez court. Et donc, c'est deux rapports parlementaires, écrits par des députés, et des propositions de loi pour réprimer encore le mouvement écolo, principalement. Donc, les députés, c'est assez intéressant, parce qu'il s'agit de... Donc, comme habituel, il y a un député des Républicains, Monsieur Hetzel, il y a Monsieur Boudier de Renaissance, mais plus surprenant... Quoique, il y a ici un député écolo, soi-disant, Monsieur Yordanov, épaulé par un macroniste, Monsieur Pouliat, et donc ils veulent lutter, soi-disant, contre l'activisme violent, et donc ils préconisent également dissolution, amende, intelligence artificielle pour lutter contre ça, notamment suite à Sainte-Soline. Donc je vous encourage à aller voir ça. Ça s'appelle « Comment des députés veulent réprimer encore plus de militants ?» C'est sur Reporter. Voilà.
J'ai rien vu, rien entendu. 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 J'ai rien vu, rien entendu.
Voilà. C'était le jingle après la séquence. Je vais vous parler tout de suite là, puisque je suis parti de Pascal Pro sur BFM TV, je crois, non, CNews, pardon. Voilà. Alors c'est un article de Contre-Attaque et qui s'intitule "Inversion systématique". Ils ont osé le dire. Pascal Pro, star des plateaux télé de la chaîne d'extrême droite CNews, on me fait passer pour un réac alors que je suis plutôt anard. Son compère, Marc Menant, habitué des mêmes plateaux. Moi, je suis de gauche et anarchiste. J'ai du mal avec l'ordre. Tout le monde s'était donc trompé. Bolloré n'est pas un milliardaire ultra-conservateur qui a acheté un empire médiatique pour promouvoir les idées les plus à droite, mais un militant altermondialiste. Pour résumer, l'anarchisme est un projet de société sans État ni capitalisme, un projet égalitaire, sans classe, débarrassé des logiques marchandes et des dominations, en particulier des oppressions racistes et sexistes. C'est un courant politique fondamentalement anticapitaliste, antifasciste et écologiste. Des idées que l'on n'entend absolument jamais dans aucun média et littéralement l'exact inverse de la ligne éditoriale de CNews. Le travail des puissants est de dynamiter les repères et le sens des mots pour qu'on ne puisse plus penser. Dans cette époque totalement renversée, l'extrême droite pétainiste est présentée comme un rempart pour la communauté juive. Soutenir la Palestine, c'est être antisémite. Macron est un barrage au fascisme. L'arc républicain commence avec Zemmour et s'arrête avec Darmanin. Les ministres de Macron se disent de gauche. Manuel Valls est socialiste. La police défend l'état de droit en réprimant les manifestations et en mutilant les opposants. On casse les conquêtes sociales, la santé et les retraites pour préserver notre modèle social. Les antiracistes sont présentés comme les vrais racistes et les antifascistes comme les vrais fascistes. CNews et ses animateurs réactionnaires sont anarchistes pendant que les véritables anarchistes sont férocement réprimés. Dormez bien. Voilà.
Foi, on se trompe, on comprend rien. C'est de notre faute.
Bah ouais, on voit tout à l'envers.
Voilà, toujours projet écocidaire. Voilà, c'est dans. Je vais vous lire un petit truc de l'hebdo du vendredi, édition 778, qui est sorti vendredi. Voilà. Il nous parle d'un projet industriel d'agrandissement d'une centrale à bitume, l'enrobée à chaud. Voilà. Donc un projet d'agrandissement à Pierry, c'est à Épernay, ça, dans la banlieue d'Épernay. Et il nous parle de ce projet qui inquiète les riverains pour les pollutions voilà qui risquent que ça risque d'engendrer. Et ils en profitent pour nous parler un petit peu d'un autre projet à Reims qui doit s'installer à Saint-Brice-Courcelles, une autre centrale à bitume comme ça. Qui fait parler d'elle parce que il y a des opposants qui ont fait circuler une pétition et qui a recueilli 15 000 signatures, donc ce qui est pas rien pour Reims en fait où il y a une vie militante assez morne. Je trouve ça assez bon. Après ça reste une pétition hein, mais on vous tiendra au courant de ces deux projets d'agrandissement et d'installation de centrales à béton. Et sur la même page, alors page 18, je l'ai pas vu, mais il nous parle de l'émission Cache Investigation qui a été diffusée la semaine dernière. Ils sont rendus à Épernay justement, et au carrefour d'Épernay. Et ils nous expliquent que qu'ils sont allés à la rencontre de salariés qui ont été licenciés. Voilà. Licencié de façon abusive parce que Carrefour a été condamné pour ses licenciements. Et voilà, tout ça dans le même temps. Alors Bompard, le PDG de Carrefour, il a augmenté sa rémunération de 26% pour atteindre 9,2 millions d'euros. Et dans le même temps, les effectifs sont passés de 115 000 à 85 000 personnes. Voilà. Donc, on ira jeter un petit coup d'œil sur ce Cache Investigation qui parle de notre région. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai décelé dans cet hebdo du vendredi qui reste beaucoup de papier pour pas grand chose. Et bah, je peux peut-être enchaîner avec ce qu'on a le temps, avec l'Airbnb là qui commence à agacer sérieusement les Marseillais et les Marseillaises. Et je pense que ça pourrait s'étendre à pas mal d'autres grandes villes. Voilà. Donc là, c'est dans CQFD de novembre. Donc ça, CQFD, journal basé à Marseille, qui parle pas que de Marseille, mais voilà. Donc je vous lis ça. Cela fait quelques années que la question du logement insalubre et de la gentrification galopante hérisse Marseille, tant il devient difficile de s'y loger décemment. D'autant qu'un acteur en pleine expansion accélère la dépossession urbaine, Airbnb. Plateforme vampire, plateforme à fuir. Ce vendredi soir de la mi-octobre, à quelques encablures du fort animé Cours Julien, deux touristes anglophones galèrent à localiser leur Airbnb. Dans un décor où s'agitent fatigués et traînards, ils font clairement tache. Elle, robe orange de marque et chapeau mou hideux. Lui, pantalon blanc, mocassin et chemise saumon. Chacun traîne une valise à roulettes, suivie de son horripilant de mon banc, je les observe s'agiter. Lui gueule dans son téléphone à propos d'une histoire de boîte à clés introuvable. Elle fait nerveusement les 100 pas, feignant de ne pas entendre une épithète fleurie que lui lance un groupe d'ados, des extraterrestres. Pour caricaturale qu'elle soit, tant les profils des adeptes du Airbnb sont divers. Cette scène est devenue banale en terre phocéenne, comme dans d'autres villes d'Europe, condense bien des aspects de l'explosif phénomène en cours. Soit un déferlement de personnes étrangères à la ville et ses usages, profitant d'un système de location courte durée qui favorise l'artificialisation des rues au détriment d'une population qui n'hésite plus à afficher son hostilité. Spéculer sur les ruines. Cette invasion des profanateurs de quartier s'inscrit dans un temps long. 5 novembre 2018. Deux immeubles s'effondrent rue d'Aubagne, en plein quartier de Noailles. 8 morts. Et le début d'une vaste opération d'expulsion, des milliers de personnes se voyant sommées de quitter leur immeuble en péril. Terminologie devenue ici aussi familière qu'un apéritif anisé. À ce champ de ruines, frappant les plus pauvres, se greffe vite une gentrification accélérée, encouragée par la fin de la répulsive ère Godin en juin 2020 et une certaine hype post-confinement accolée à la ville. Marseille n'étant plus associée uniquement à ses poubelles, ses calaches et ses magouilles, elle attirait de nouveau. C'est alors qu'Airbnb s'est imposé dans le game, plantant un nouveau clou dans le cercueil d'une ville de moins en moins populaire. Aujourd'hui, Marseille est la deuxième ville de l'Hexagone, offrant le plus d'appartements en location sur Airbnb. Alors qu'on y a longtemps décompté quelques petits milliers d'annonces, à l'été 2023, la plateforme en dénombrait plus de 15 000. Peaufinant un ouvrage sur la gentrification à Marseille, l'ami Victor Collet se déclare époustouflé par la vitesse à laquelle ça se passe. Il n'hésite pas à parler de carnage, de dérégulation totale ou encore de start-up nation à bloc. car l'irruption de la multinationale californienne a des effets concrets sur les résidents normaux, ni riches ni touristes, qui se voient boutés hors de la ville. Victor estime aussi que la ville passe en précarité résidentielle, de nombreux propriétaires basculant vers un bail mobilité. 9 mois de location hors plateforme et 3 mois estivaux consacrés à de lucratives locations courte durée. Dans un marché locatif bouché, beaucoup d'aspirants locataires n'ont d'autre choix que d'accepter. Quant à l'État macronien, il ne fait rien pour juguler le phénomène, ayant récemment sabordé à l'Assemblée une loi visant à limiter les avantages fiscaux dont bénéficient les nouveaux marchands de sommeil. Jusqu'à 71% d'abattement fiscal pour les locations meublées de tourisme. Federico, l'un des créateurs de l'Observatoire de la gentrification, s'échine depuis 2021 à mettre en carte ce désastre raz-de-marée. Il a choisi comme objet d'étude un rectangle de 800 mètres sur 600, autour de l'emblématique place Jean Jaurès, dite la Plaine. Depuis, en moins de militant, il a patiemment emmagasiné les données. Sur cette zone, détaille-t-il, les locations d'Airbnb seraient passées de 140 à 370 de 2012 à 2023, avec un prix moyen de la nuitée à 124 €. Ce qui, ramené au taux d'occupation, assurerait un revenu moyen de 2 530 € mensuels par location. De quoi attirer les requins, qui pour certains mettent la main sur des dizaines d'appartements reconvertis en location de courte durée. Les profils à la manœuvre sont divers, résume Federico. On trouve aussi bien des fonds d'investissement américains qu'un bourgeois de Lyon ou un petit propriétaire marseillais. Ces cartes montrent que les secteurs les plus impactés par les problématiques de l'habitat insalubre sont ceux où les prix à la location Airbnb sont les plus chers. Tant la spéculation s'y déchaîne pour des appartements convertis en résidences de luxe, une sorte de théorie du choc versant immobilier. Les effondrements du 5 novembre 2018 ayant déchaîné les appétits du capitalisme sauvage. Victor résume, ils ont transformé la reconversion de l'insalubrité en opportunité touristique. L'empire immobilier du côté obscur. Rendre visite aux immeubles transformés en niches à touristes ne donne pas une vision précise des transformations. De l'extérieur, on ne voit presque rien. Parfois, on devine juste. En face des immeubles effondrés de la rue d'Aubagne, un bâtiment dont les sonnettes portent des drôles de noms. Basquiat, Van Gogh, Rouge. 30 rue Thiers, où 14 appartements seraient la propriété d'un chirurgien ne vivant pas à Marseille. Une inscription en vitrine, la niche, couverte de quelques autocollants. Origine, gentrificateur de merde, garantie. 3 rue de la Rotonde, une sonnette, conciergerie, indiquant qu'ici on fait l'intermédiaire entre touristes et proprios, notamment en fournissant les clés. Rue des Trois Rois, où l'entreprise Knock Knock propose d'onéreux appartements grand luxe, pas un indice visible de l'invasion. Cette invisibilisation du phénomène est battue en brèche par les boîtiers à code disséminés sur le mobilier urbain du Panier à la Plaine, en passant par Belzunce. Dans certaines rues, on en compte des dizaines. Le touriste ayant l'adresse et le code, il n'y a même plus besoin d'accueillir. L'avantage, si l'on sature des values à roulette, on peut facilement les saboter. Colle, peinture, piratage, tout est bon. Le 14 octobre dernier, un collectif de Marseillais du centre-ville a ainsi revendiqué le kidnapping de 40 boîtes à clés et la mise hors service de 21 autres. Autre moyen de lutte, plus cash, le saccage. En mars 2023, un appart en location Airbnb s'est vu mis à l'amende et recouvert de tags. Appartement fantôme, Tunovi. Spéculation immobilière égale Jean mis à la rue. Une action fort opportune au vu du résultat. Ils ont gagné, je vais le retirer d'Airbnb et le remettre en location longue durée à lâcher le proprio. Pas tout à fait le temps de finir cet article de CQFD écrit par Emilien Bernard. Et bon... On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Pour la prochaine poulie, prenez soin de vous. Salut.
Ok. 1, 2, 3, 4.